Chers auditeurs et auditrices, bonsoir et merci de votre écoute au programme du Studio Kalungu diffusé chaque jour à travers notre réseau dynamique de 38 radios partenaires couvrant toutes les 8 régions du Niger. Utilisation du smartphone, quels sont les impacts des radiations sur la santé? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Le téléphone portable, particulièrement le smartphone, c'est cet outil de communication devenu aujourd'hui un objet indispensable de notre quotidien pour communiquer, échanger avec les autres, mais aussi suivre l'actualité ou même se divertir. Même si son utilité est incontestable, son utilisation n'est pas sans conséquence sur la santé de l'être humain, car selon les avertis, le smartphone est source de radiation. Alors, quelle est la différence entre le téléphone mobile simple et le smartphone? Quels sont les accessoires ou des objets associés au téléphone qui présentent des risques de radiation? À quel moment ou comment le téléphone produit la radiation? Comment l'utiliser pour éviter ou limiter les effets de la radiation? Quel impact sur la santé et comment y faire face? Ce sont à toutes ces interrogations et à bien d'autres que nous tenterons de trouver des réponses au cours de cette émission de 45 minutes. Pour cela, nous recevons dans ce studio Ali Mustapha de l'Association des informaticiens du Niger. Bonsoir Ali.
Bonsoir.
Nous recevons également Dr Moussa Omar, il est médecin interniste. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Mademoiselle Souheba, une jeune utilisatrice des smartphones. Bonsoir Souheba.
Bonsoir.
La présentation ne fit ça Adam Sirfou. Chers invités, merci d'être venus. Je commence par vous, Ali Mustapha. Vous êtes membre de l'Association des informaticiens du Niger, c'est ça?
Oui, exactement.
Alors, dites-nous brièvement ce que votre association fait d'intéressant. Je veux parler de vos principales missions.
Donc, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, c'est Ali Mustapha Haruna. Donc, je suis ingénieur télécom. Donc, l'Association des informaticiens du Niger, c'est une très nouvelle association. Cette association a pour but la sensibilisation. D'ailleurs, nous avons tenu une conférence sur les impacts de radiation par rapport à l'utilisation des smartphones. Et il y a aussi des formations. Évidemment, c'est des formations qui seront gratuitement, donc, etc.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Ali. Vous êtes ingénieur télécom.
Oui.
Dites-nous quelle différence entre le téléphone mobile simple et le smartphone.
Le téléphone simple et le smartphone, tout de suite, par rapport à la radiation, à mon avis, il ne faut pas tout de suite faire une différence. Parce que quand vous prenez le téléphone simple, et le smartphone, ils sont munis d'une antenne. Et cette antenne génère l'onde électromagnétique. Et cette onde électromagnétique est caractérisée par un champ électrique et un champ magnétique. Et quand on prend, nous on définit la radiation comme étant l'énergie dispersée dans l'environnement.
Dans l'environnement.
Et donc, peut-être la différence, c'est l'utilisation. On garde plus le smartphone sur soi que le téléphone simple.
Et donc, quels sont les accessoires ou les objets associés au téléphone qui présentent des risques de radiation?
Ce qui cause le problème au niveau du téléphone, c'est-à-dire c'est surtout l'antenne. L'antenne, son rôle c'est quoi? Par exemple, aujourd'hui, nous on émet un signal qu'on appelle signal acoustique qui est converti par le micro en signal électrique. Et ce signal électrique, et donc, c'est-à-dire sera envoyé au niveau de l'antenne. Mmh. Et donc, le téléphone étant muni d'une antenne, et donc cette antenne va convertir ce signal électrique en signal électromagnétique, donc qui va rayonner autour de l'antenne. Maintenant, par la puissance de l'émetteur, ce signal-là va se propager dans l'espace libre. Et maintenant, quand on prend, nous, l'antenne, c'est comme si nous avons l'antenne sur nous. Quand on prend le téléphone, comme il génère une onde électromagnétique, et donc cette onde électromagnétique qui est caractérisée par un champ électrique et un champ magnétique, donc ça veut dire que c'est de l'énergie, et donc ça veut dire qu'il tourne autour de nous, qui est sur nous. Voilà.
Monsieur Ali, c'est au moment d'un appel que le téléphone produit de la radiation ou bien même...
Le téléphone en permanence et en communication avec l'antenne BTS. L'antenne BTS, c'est les antennes relais que nous voyons en ville. Mm-hmm. Par exemple, les gens ont tendance tout de suite à critiquer les antennes relais qui sont en ville. Mais on ne se demande pas, l'antenne qui est sur nous, qu'est-ce qu'on fait avec ? L'antenne qui est sur nous, moi je vais dire tout de suite, on l'installe où ? On l'installe sur notre cœur. L'antenne qui est sur nous, on l'installe
dans nos
à
poches.
Côté des organes génitaux. L'antenne qui est sur nous, et en permanence, si on peut le dire, est sur notre cerveau. Et donc, ça dit qu'on doit faire attention. L'antenne, le téléphone est en communication permanente avec l'antenne relais.
L'antenne, oui.
Et donc, ça dit que quand elle est en communication, c'est-à-dire elle génère, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques, parce que quand on prend le sans fil, nous savons que, par exemple, avec le téléphone sans fil, c'est le fil qui sert de support pour transporter l'information. Maintenant, avec le sans-fil, c'est l'onde électromagnétique qui transporte le signal. Et cette onde-là, c'est de l'énergie.
Mademoiselle Soueba, je reviens vers vous. Vous êtes jeune utilisatrice des smartphones. Dites-nous, dans votre quotidien, comment est-ce que vous utilisez les smartphones, votre téléphone mobile, et à quelle fin ?
Merci. Moi, je dirais que mon activité se résume principalement au téléphone, parce que je suis chercheur, du coup je suis pratiquement tout le temps en train de lire, en train de faire des navigations pour actualiser. Et ce n'est pas tous les jours que j'ai accès à mon ordinateur, du coup le téléphone, en fait je peux l'utiliser assez souvent, c'est assez mobile, comme son nom l'indique. Du coup, moi je pense que le téléphone c'est pratiquement mon quotidien.
Et donc, si on peut le dire, tu es de ces personnes-là qui ne peuvent s'en passer de leur téléphone toute la journée?
Non, pas personnellement, parce que du point de vue de ma vie personnelle, je ne suis pas, disons, accro. Mmh. Mais c'est surtout mon travail qui m'amène à l'utiliser, parce qu'il faut lire les mails, les programmations, en fait, toutes ces choses, quoi.
Combien d'heures tu passes sur ton téléphone par jour?
Par exemple, je dirais pas moins de 4 heures par jour, pas moins de 4 heures. Enfin, même si je ne l'utilise pas, il est quand même à côté. Parce que ça peut sonner à tout moment, ça peut communiquer, tout ça. Donc, je dirais au moins 4 heures.
Au moins 4 heures.
Je pense que, en fait, nous utilisons beaucoup plus nos téléphones que nos ordinateurs à l'université.
Merci.
Enfin, dans mon domaine.
Voilà. Merci Soueba. Docteur Omar, dites-nous, quelle analyse faites-vous de l'utilisation qu'en font les gens des téléphones mobiles?
Donc, merci, madame. Et je remercie également le studio Kalangu pour nous avoir invités à ce débat d'actualité, en tout cas qui fait la une un peu partout. Comme vous le savez, l'utilisation des ondes électromagnétiques ne date pas d'aujourd'hui. Ça date des années 50. Et cette utilisation d'abord a été faite par les militaires. Avant, c'était les militaires qui l'utilisaient pendant les premières et deuxièmes guerres mondiales. Mais après, maintenant, cette utilisation a été libéralisée, rendue commerciale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, que ce soit les villages, que ce soit les centres urbains, en tout cas, en général, le Nigérian, en général, on peut dire même un Nigérian sur deux utilise cet appareil, c'est un appareil très simple et qui nous facilite beaucoup de choses, surtout en termes de communication, en termes de recherche, comme
Soueba
vient de le dire. Mais parce que ce qu'on déplore dans nos pays, surtout les pays africains, c'est comme les produits alimentaires qui viennent d'ailleurs, ou bien n'importe quel produit qui vient d'ailleurs. On ne cherche pas à comprendre le produit, tout d'un coup, on rentre dans l'utilisation de ce produit, sans se rendre compte des dangers auxquels on est confronté. Donc, c'est le problème que pose aujourd'hui l'utilisation, en tout cas, du smartphone ou bien du téléphone mobile à travers l'émission des ondes magnétiques. Comme vous le savez, l'organisme lui-même a ses propres énergies, ses propres ondes, mais c'est des ondes naturelles. Mais les ondes électromagnétiques, c'est des ondes qui sont générées par l'homme. Donc, ce n'est pas naturel. Donc, nécessairement, l'abus ou bien la mauvaise utilisation de ces ondes électromagnétiques en tout cas, va impacter sur notre santé. Nous allons le voir plus tard.
Oui, justement, ce sont la plupart du temps des maux de tête, des bourdonnements d'oreilles. Ce sont les signes qu'on remarque le plus souvent lorsqu'on utilise les smartphones. Dites-nous, docteur, quels sont les dangers des téléphones sur la santé?
Tout à l'heure, en lisant, il y a un neurochirurgien suédois, je crois qu'il s'appelle Lueff, dit que depuis les années 1950, en tout cas, nous sommes devenus des grands cobayes d'une vaste et néfaste expérimentation, parce qu'aujourd'hui, le risque que nous encourons par rapport à l'utilisation de ces ondes électromagnétiques est multiplié par même un milliard. Ce n'est pas mille, hein, ou bien
milliard.
100. Milliard.
C'est énorme.
Et comme vous le savez, il y a eu peut-être plus de 15 000 études sur l'impact sanitaire de ces ondes électromagnétiques sur notre santé. Maintenant, quel est le résultat de ces études? Ces études ont démontré que l'abus ou bien la mauvaise utilisation de ces ondes électromagnétiques a des impacts d'abord sur nos cellules qui, elles aussi,
les
utilisent de l'énergie,
oui.
Pareil, sur les organes et en dernier ressort, c'est sur le stress. C'est pourquoi,
comment vous
c'est-à-dire, vous savez, dans l'hygiène de vie, on dit qu'il faut manger sain, il faut bien dormir, il ne faut pas s'exposer au stress, il faut faire le sport. Donc quand on est stressé, ça veut dire qu'on ne peut pas bien dormir. Et c'est ce qui fait que, en tout cas, pas, je ne sais pas, au Niger, on n'a pas encore commencé à étudier les impacts, mais en Europe, vous allez vous rendre compte, surtout sur chez les enfants qui sont vraiment collés à ces appareils, des troubles de comportement qui nécessitent même des fois une hospitalisation dans un centre agréé. Donc, en termes de stress et d'irritabilité, il y a des gens qui sont irritables, manque de sommeil, manque de concentration, épuisement total. Vous avez vu, il y a tout un corollaire de symptômes qui s'accompagnent. Quand vous regardez comment on utilise le téléphone, et d'abord, par rapport même à l'utilisation du crédit, des études ont démontré que la carte de crédit, pour chercher le numéro, il y a des produits qui sont utilisés et qui sont cancérigènes. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, on préfère même faire le crédit direct que de
gratter,
passer par...
Que de gratter.
Quand vous grattez, les Européens qui ont gratté déjà ont des cancers au niveau des doigts. Donc au niveau de la main, il peut y avoir plusieurs sortes de maladies. Et le plus souvent, c'est l'oreille. On amène l'appareil vers l'oreille. Donc l'oreille prend. Des fois, ça diminue l'ouïe. Des fois, il y a des gens qui n'entendent pas très bien. Des fois, à côté de l'oreille, quel organe sensible existe? C'est le cerveau.
Le cerveau.
Donc vous voyez, il y a des problèmes. Il y a troubles de concentration, troubles de mémoire, des fois même des cancers du cerveau, peuvent être liés à la mauvaise utilisation de ces appareils. Toujours au niveau de la tête, il y a les yeux. Ouais, elle passe tout son temps en train de lire, de regarder.
Sur l'écran.
Ou bien des fois, vous allez voir des vieilles personnes qui jouent comme des enfants. Ouais, tout ça, ça gâte les yeux, ça gâte la cornée, la rétine, tout l'appareil de l'œil. Donc, en un mot, ça commence par la tête, mais ça peut impacter tout
l'organisme,
tout le fonctionnement des organes, y compris les organes génitaux. Parce qu'on a constaté l'un des impacts négatifs, c'est la diminution de la fertilité et l'impuissance. Parce que le plus souvent, les gens se mettent ces appareils dans les poches à côté des organes génitaux. Ou bien c'est comme les femmes. Les cancers de sein, vous voyez, ou bien chez les hommes, les cancers de prostate et autres. Vraiment, la science, à travers les études, ont démontré, en tout cas, des aspects négatifs sur l'utilisation de ces ondes électromagnétiques.
Merci à vous, docteur. Alors, Ali, je reviens vers vous. Souéba passe au moins 4 heures de temps sur son téléphone par jour. Dites-nous, en tant qu'ingénieur télécom, combien d'heures doit-on passer sur son téléphone par jour?
Peut-être le nombre d'heures qu'il faut passer sur le téléphone, c'est plutôt un aspect médical. Mais maintenant, il y a des comportements à tenir par rapport à l'utilisation de ces téléphones. Parce que comme nous avons vu, le téléphone est muni d'une antenne qui génère des ondes électromagnétiques. Il est très important pendant l'utilisation de ce téléphone de le garder loin du corps. Parce que quand vous prenez à 10 cm déjà du corps, l'amplitude du signal diminue de 4 fois.
environ 1 mètre, l'amplitude du signal diminue 50 fois. Et donc, ça dit qu'il est important d'éloigner.
Oui, de l'éloigner
de l'éloigner du corps. On peut utiliser les écouteurs, les kits mains libres. Et aussi, donc, ça dit ne pas garder le téléphone sur soi. Malheureusement, même parfois la nuit, pendant le sommeil, on le met sous notre oreiller parce qu'on s'en sert de réveil. Malheureusement, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien aussi, par exemple, d'utiliser le téléphone lorsque le signal est faible. Parce qu'en ce moment, le téléphone utilise une très grande puissance pour pouvoir capter le peu de signal qu'il peut avoir. Et donc, ça dit aussi, lorsque le téléphone est déchargé, il utilise une très grande puissance, c'est-à-dire pour pouvoir garder le signal. Donc, ce n'est pas conseillé aussi, c'est-à-dire d'utiliser ces téléphones pendant ces moments. Il y a eu une étude qui a démontré que le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique, c'est-à-dire le taux de rayonnement sur l'oreille. Par exemple, pour un enfant de 5 ans, elle est environ de 4,49 watts. Pour un enfant de 10 ans, elle est de 3,2 watts. Pour un adulte, 2,93. Alors que le DAS doit être inférieur à 2 watts par kilogramme. Et donc, ça veut dire que tout de suite, nous pouvons choisir nos téléphones en fonction du DAS.
Oui.
C'est-à-dire, nous pouvons regarder quel est le débit d'absorption, donc ça dit de ce téléphone-là, avant de l'utiliser. Bon, on sait que le DAS, ça dit, c'est un paramètre inconnu du grand public, mais nous pouvons regarder, on peut le trouver sur Internet. Le DAS varie en fonction du type de téléphone.
Oui.
Donc, on peut regarder quel est le téléphone qui a le
approprié,
DAS le plus faible. Et donc, ça veut dire que nous pouvons travailler avec ça. Et par exemple, aussi, pour diminuer donc ça veut dire l'effet de radiation, lorsque nous communiquons, par exemple, lorsque moi je voudrais appeler un correspondant, qu'est-ce que je fais? Je compose directement, je mets à l'oreille. Alors que je peux composer et attendre. Parce que pendant l'émission, le téléphone génère plus d'ondes électromagnétiques. Et moi, je compose, je mets à l'oreille. Alors que peut-être le correspondant ne va même pas répondre. Je vais encore répéter l'opération 4-5 fois.
Alors
donc, c'est-à-dire, je suis en train de, comment on appelle ça?
D'impacter le cerveau.
D'impacter, donc ça dit le cerveau. Tu appelles, tu peux mettre un cerveau par là pour entendre que ça sonne.
Attendre d'abord que la personne décroche.
Quand on décroche, tu vois comment on appelle ça, le nombre de la facturation qui commence. Donc, à ce moment, tu mets. Et donc, c'est-à-dire à l'oreille, ça peut aider en termes de comportement. Et aussi, lorsque nous sommes en grande vitesse, c'est-à-dire lorsque nous sommes en voiture, lorsque nous sommes en train, ce n'est pas bien d'utiliser le téléphone parce que lorsque nous roulons à grande vitesse, donc c'est-à-dire le téléphone change de cellule, d'une cellule à une autre cellule. Et le changement de cellule, c'est-à-dire demande une puissance très importante. Donc, c'est-à-dire que c'est un moment où c'est-à-dire la puissance donc, c'est-à-dire, du téléphone, elle est très importante. Ce n'est pas conseillé.
Voilà.
Et donc, en public aussi, en principe, ce n'est pas conseillé de...
Oui, nous allons venir à cette question.
Okay.
Mais pour revenir un peu sur la question de dormir avec son téléphone, on voit que bon nombre de personnes placent leur téléphone à proximité de leur lit ou dorment carrément avec. Donc, doit-on éteindre carrément son téléphone avant de dormir ou...
Là, il s'agit d'adapter le comportement approprié, approprié parce que ça dépend de la fonction, donc ça dit de la personne. Et parce qu'il y a des gens qui laissent le téléphone parce qu'on va les appeler, etc. D'accord, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La nuit, carrément, parce que la majorité des gens l'utilisent comme réveil. Ce qui est conseillé, c'est de chercher ton réveil. Tu laisses le téléphone loin de toi. Et maintenant, tu peux, si par exemple la nuit, on ne va pas t'appeler, tu le mets sur... mode avion.
C'est-à-dire,
tu n'en as pas besoin. Si tu n'en as pas besoin, évite que le téléphone communique avec l'antenne. Parce que si tu le mets en mode avion, ça veut dire c'est devenu. Là, ça peut devenir une montre, si tu veux. Tu peux le mettre en mode avion et mettre réveil. Là, c'est possible. Mais là, si, on ne va pas t'appeler. Mais maintenant, si on va t'appeler aussi, tu réajustes le volume de sonnerie et tu déposes loin de toi. À un mètre de toi déjà, l'amplitude du signal diminue de 50 fois. Donc, ça dit que c'est important. Le mieux, c'est de garder le téléphone loin de toi.
Loin de soi.
Voilà.
Mademoiselle Soueba, es-tu consciente de tous ces dangers qui viennent d'être cités par nos deux invités? Alors, comment tu gères la situation?
Bah oui, parce qu'en décembre, j'avais été malade. J'avais eu mal à l'oreille. J'ai été évacuée à la morgue. Et c'est là, au fait, après, ils ont fait le truc, le médecin. Donc, le médecin, il m'a dit déjà la durée de mes appels. En fait, il m'avait soumise à un interrogatoire. Il avait demandé la durée de mes appels et la fréquence de l'utilisation des écouteurs. Concernant les appels, je ne suis pas trop appel. Par contre, les écouteurs, je peux les utiliser au moins 2 heures par jour. 2 heures par jour.
Les écouteurs.
Parce que quand je fais du sport, c'est toujours écouteurs du début jusqu'à la fin. Il a dit oui, pour les écouteurs, ça c'est vrai. Il a dit, ah ben voilà. Donc, c'est peut-être cela qui a provoqué
ce mal,
les maux, voilà, de l'oreille. Ça, c'était un. Et puis, il y a le problème d'insomnie. Donc, il avait expliqué que la lumière bleue, au fait, de l'écran du téléphone, ça provoque un trouble du sommeil. Donc, pour vous dire que j'avais vraiment vécu en vrai la chose.
Voilà.
Mais depuis que j'avais été malade, je n'ai jamais plus utilisé l'écouteur.
Ah.
Parce que sincèrement, j'avais souffert. Les maux des oreilles, c'était vraiment horrible.
Tu as tiré une leçon.
Ouais, c'est sûr.
Voilà. Et la nuit, tu n'utilises plus le téléphone
Non, parce que je dors pas avec mon... Déjà, mon téléphone est programmé pour s'éteindre à minuit. Je ne sais pas si, même éteint, il produit les ondes.
En principe,
voilà. Non, donc, pour vous dire que voilà, mon téléphone, il s'éteint, même si je ne suis pas à côté, il s'éteint de lui-même à minuit et il se rallume à 6 heures.
Présentement, est-ce que tu ressens ces symptômes que tu as vécu en décembre?
Ce que je ressens le plus, c'est si je suis obligée de lire des choses, par exemple la soirée. Là, je sens vraiment, déjà, j'ai un problème de vision. Donc, je sens vraiment combien ça pèse. Ouais. Et puis, on m'avait dit que même pour les personnes qui sont bien portantes, le téléphone peut provoquer la myopie. Donc là, je me sens une fatigue supplémentaire. Je sens une fatigue supplémentaire lorsque je lis. Mais quand je suis vraiment obligée de finir un travail, c'est là que je sens le truc.
Alors, docteur Omar Souéba avait souffert des symptômes. Donc, dites-nous, est-ce que vous avez, vous, précisément eu à rencontrer des patients qui souffrent de ces symptômes ou bien bon, de quelques problèmes liés à l'usage du téléphone
problème,
mobile.
Comme au début de cette émission, je vous ai dit le cri d'alarme d'un chercheur, un neurochirurgien suédois, qui dit que nous sommes tous cobayes. Donc, Souéba n'est pas la seule. Nous sommes tous des cobayes parce que nous utilisons tous et de la mauvaise manière ces appareils. Donc, personnellement, j'ai pas eu à rencontrer des cas par rapport à mes patients, mais quand même, j'ai suivi une émission sur France 2 où on a parlé de long en large des conséquences, surtout sur les enfants, surtout sur les jeunes enfants, sur l'utilisation du téléphone. Donc, en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. À telle enseigne que, en tout cas, je fais les pieds et des mains pour que mes enfants aussi ne subissent pas le même sort. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne marche pas dans nos pays. Ou bien peut-être il y a un organe qui n'existe pas. Ou bien il y a une société civile dormante. Ou bien il y a une association des consommateurs dormante. Parce que quelque part, on est en train d'être victime. On ne sait pas à quelle porte frapper. Même si... comme l'exemple de Souéba,
oui.
Je suis victime de l'utilisation. Comment je dois faire? Est-ce que vous voyez? Parce que le problème dans nos pays, comme je dis, on consomme seulement. Donc pour moi, ce débat doit interpeller le pouvoir public. Vous voyez, il n'y a pas seulement la sécurité physique militaire.
Non.
Il y a la sécurité sanitaire.
Ouais.
Et je vous mets entre parenthèses, ça ne fait pas en moins de 2 ans. Nous avons perdu 2 chirurgiens qui ont utilisé à l'appareil et qui ont utilisé à l'hôpital un appareil qui irradie, qui émet des irradiations et qui sont décédés de la même maladie, la leucémie, un cancer du sang. Vous voyez? Donc, même vous, en tant que journaliste, ne pensez pas que vous êtes épargné parce que vous utilisez les mêmes appareils. Mais maintenant, la question qui se pose, où commencer pour pouvoir assurer ou bien sécuriser les populations. De toutes les façons, les gens les continuent. Vous allez voir des gens même qui amènent leurs enfants à la maternelle, à la crèche, avec des appareils. Vous voyez? Alors qu'ailleurs, c'est interdit.
C'est interdit.
On va revenir. Moi, j'ai, comme l'a dit Mustapha, j'ai quelques 10 recommandations sur la bonne utilisation de ces appareils. Vous allez vous rendre compte que même chez les enfants, à partir de... Il faut jusqu'à 12 ans, c'est proscrit, l'utilisation de ces appareils. Les femmes enceintes Ouais, il y en a beaucoup.
Oui, justement, parlez-nous donc des personnes vulnérables face à ces risques.
Donc, les personnes les plus vulnérables, ce sont les enfants. Les enfants de 0 à 12 ans, les femmes enceintes, certainement les vieilles personnes aussi. Et ils sont plus vulnérables que les autres. Mais n'empêche, même les jeunes peuvent être vulnérables. Comme l'a dit, ça dépend d'abord du débit d'absorption spécifique, la DAS. Là. Nous, on ne connaît même pas ça.
Mm-hmm.
Vous, ce qui nous intéresse, qu'on dise que l'appareil, il a un bon appareil photo, un joli vidéo, c'est tout.
Oui.
Mais, vous voyez, normalement, quelque part, moi, je me suis dit que les vendeurs, ou bien ceux qui font la promotion de la téléphonie mobile, c'est de leur devoir de pouvoir, normalement, expliquer au public, en tout cas, les bons appareils ou bien la bonne manière de... C'est comme, je prends l'exemple d'Ebola. Il faut que Ebola arrive pour qu'on dise qu'il faut laver, il faut qu'on se lave les mains.
Mm-hmm.
Alors que le lavage des mains doit être un comportement de tous les jours. Mm-hmm. Donc c'est la même chose. Mais je n'ai jamais vu sur une télé du Niger où, par exemple, l'agent est venu nous expliquer
comment
comme,
utiliser.
Moustapha est en train de le faire.
Mm-hmm.
Alors qu'en leur sein, il y a des grands communicateurs. Mais le plus souvent, ils font la communication seulement dans le cadre du marketing. Seulement dans le cadre du marketing.
Monsieur Ali, je reviens vers vous. Dans certains lieux publics, comme vous l'avez un peu expliqué, tels que les aéroports ou même dans les immeubles, on voit souvent des affiches qui indiquent qu'il n'est pas conseillé d'effectuer un appel. Alors, quelle explication?
Oui, c'est toujours par rapport à l'impact.
Oui.
Quand on prend, ce qui frappe tout de suite à l'œil, c'est... Par exemple, au niveau des stations d'essence.
Yeah.
Évidemment, on voit qu'au niveau des stations d'essence, c'est prescrit, interdit de téléphoner.
D'effectuer,
oui, parce que l'essence, on sait qu'il est sensible. Et donc, comme l'onde électromagnétique, c'est de l'électricité, oui, ça peut faire un choc qui va engendrer, donc, c'est-à-dire un incendie. Et donc, ça dit que c'est par rapport à ça. Donc, en public, on ne doit pas téléphoner parce que tu es impacté. Tu impactes les autres aussi. Parce qu'il est conseillé de se tenir à environ à un mètre de quelqu'un qui est en communication.
Et souvent, on a un comportement genre un SMS à envoyer d'urgence ou recevoir un coup d'appel. On a tendance à utiliser notre téléphone même lorsqu'il est sous tension, c'est-à-dire en charge. Donc, ce geste peut-il se révéler dangereux? Si oui, comment?
Surtout pour la communication, par exemple, parce que lorsque nous mettons en charge notre téléphone, donc ça veut dire qu'elle est sous tension.
Mm-hmm.
C'est de l'énergie qui passe. Et maintenant, le risque, c'est que l'onde électromagnétique aussi, c'est de l'énergie. Donc, il peut avoir un choc donc qui va déclencher l'explosion donc, ça veut dire du téléphone.
Mm-hmm.
Et il y a eu des cas, c'est-à-dire palpables, où le téléphone a explosé. Et c'est par rapport au choc de l'énergie de l'onde électromagnétique et l'énergie, donc ça veut dire du secteur de...
Donc, si on comprend, lorsqu'un téléphone est en charge, il serait préférable de débrancher pour recevoir un appel ou effectuer un appel. Aussi, dans les services, certains agents branchent leur téléphone avec les câbles, avec l'ordinateur. Là aussi, dans ce cas, on peut recevoir un appel ou...
C'est de l'énergie déjà, parce que c'est de l'énergie emmagasinée qui passe dans... Comment on appelle ça, dans le téléphone. Donc, il est préférable, c'est-à-dire lorsque nous passons une communication, de débrancher
carrément
le téléphone d'une source d'énergie.
Voilà.
Voilà, de façon générale.
Soueva, est-ce que tu as l'habitude de recevoir des appels avec un téléphone branché sous tension?
Avant, oui. Mais après, parce que j'avais connu quelqu'un, c'est vrai que c'était à l'étranger. Au fait, son téléphone était en charge. Lui, il était aux toilettes. Mm-hmm. Il avait reçu... Mais c'était vraiment un ami et il avait perdu la vie comme ça.
Ah là
parce
là.
Qu'il était mouillé et il avait décroché l'appel. Il paraît qu'il y a eu un truc avec...
l'énergie.
Oui, et il avait perdu la vie. Depuis, ça fait au moins maintenant 2 ou 3 ans, je n'ai... Au fait, dès que je reçois un appel, le premier réflexe, c'est que je pense à la personne. Du coup, je débranche avant de décrocher.
Oui.
Mais je voudrais aussi vous dire, peut-être qu'il y a... Un truc qu'on sous-estime, c'est peut-être l'impact psychologique. Parce que psychologiquement aussi, c'est la santé.
Voilà, les accros.
Voilà la nomophobie. Mm-hmm. Donc, la nomophobie, ce sont les gens qui ne peuvent plus s'en passer de leur téléphone. Et aussi dire qu'il y a une journée mondiale sans téléphone portable.
Sans téléphone, oui.
Voilà, c'est du 6 au 8 février, je pense, de chaque année, qu'il y a une journée mondiale sans téléphone portable. Mm. La journée, c'est une façon d'amener les gens à faire le point sur l'utilisation qu'on
qu'ils
a
en font, oui,
des téléphones portables.
Ok, ok. Alors, docteur Omar, dites-nous, peut-on éviter vraiment tous ces risques, tous ces dangers liés?
Donc, comme on a dit, c'est comme le manger, c'est comme n'importe quel produit que nous utilisons. Chaque produit, c'est comme un médicament. Le médicament a ses indications et a ses manières, sa posologie, sa manière de l'utiliser. Donc je crois que, comme l'a dit Mustapha, il y a des manières pour ne pas, en tout cas, avoir des impacts négatifs sur notre santé. Mais avant de venir à ça, je crois qu'elle a parlé aussi surtout de l'impact comportemental, surtout sur les enfants. On a dit que ça impacte sur la concentration, ça impacte sur la mémoire. Bon, la plupart de ces enfants, c'est des élèves ou bien c'est des étudiants. Vous voyez, ça va encore impacter sur le résultat scolaire. Et ce qui est grave, ça va devenir encore une maladie où l'enfant, il a peur de ne pas être à côté de son téléphone ou bien il a peur qu'on vole, vous voyez, donc son téléphone.
Surtout de nos jours avec les réseaux sociaux, là, les gens sont tout le temps connectés.
Donc, et vous avez vu là, dans l'histoire des fake news, maintenant les enfants, à force de jouer ou bien enfin, de tirer le téléphone, leur cerveau ne fait qu'enregistrer des fausses informations. Voilà. Qui ne vont pas à l'encontre de leur propre développement. Comme on a dit, la santé, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale, sociale. Même sur le plan social, vous allez voir des conflits entre maman et ou bien entre parents et enfants à cause de l'utilisation de cet appareil. Ou bien il faut que vous amenez votre enfant chez le psychologue parce qu'il a développé déjà une maladie mentale. Hein. Pour éviter, je crois qu'il y a plusieurs, une vingtaine de scientifiques qui ont en tout cas lancé un appel à l'endroit des utilisateurs de ce téléphone. Quoi que Mustapha a dit beaucoup de choses, je peux peut-être rappeler, c'est ne pas autoriser les enfants de moins de 12 ans, comme on l'a dit, à utiliser un téléphone portable, sauf en cas d'urgence. Parce que pourquoi? Parce que c'est à l'âge où les organes sont très sensibles, sont jeunes, ils se développent. On dit que si tu portes aussi le portable sur soi, il faut que la partie clavier s'oriente vers le corps et la partie antenne vers l'extérieur.
Vers l'extérieur, oui.
Voilà. Il faut n'utiliser votre téléphone portable que pour établir des connexions de quelques minutes.
Mm-hmm. Oui, d'accord. Donc, on va donner aussi la parole à M. Ali pour nous donner aussi quelques comportements à suivre dans l'utilisation des smartphones. Monsieur Ali.
Donc, ça veut dire comme l'impact des ondes électromagnétiques est surtout lié au temps d'utilisation. Mm-hmm. Par exemple, il est mieux quand nous téléphonons, c'est-à-dire de changer. Parce que quand on le pose ici, si par exemple tu vas faire un appel de 5 minutes, tu fais 2 minutes ici, 3 minutes là. Donc ça réduit, au lieu que ça dit le cerveau soit attaqué de ce côté pendant 5 minutes, donc ça dit nous avons réduit en essayant de
changer de position.
De changer de position.
Voilà.
Et aussi, surtout par rapport au port du téléphone sur soi, ça c'est très important. Le fait que simplement, si on l'éloigne de soi, on diminue donc, ça veut dire, la puissance de l'onde électromagnétique. Quand on regarde, par exemple, dans les pays côtiers, généralement, ils ont un petit sac dans lequel ils mettent le téléphone. On peut, par exemple, adapter ce comportement-là, pourquoi pas, ici au Niger, au lieu de, par exemple, de porter le téléphone sur le cœur. Mm-hmm. Sur le cœur, hein, parce que ici, généralement, la poche de la chemise, c'est à gauche et en principe,
le cœur est
là-bas. Et aussi, donc, ça veut dire, ou bien soit dans la poche du pantalon. Donc, on peut chercher un petit sac dans lequel on peut mettre. Sinon, le garder dans la main. Mm-hmm. Parce que quand on garde dans la main, on a gagné au moins les 10 cm.
Oui.
Par exemple, les 4 fois, comment on appelle, diminution de au moins 4 fois. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça, personnellement, moi, je garde toujours le téléphone en main. Mm-hmm. Ou bien quand j'appelle, ça, c'est très important. C'est-à-dire, ne compose pas et met
directement.
Directement. Et donc, ça veut dire, quand tu appelles quelqu'un aussi une fois, donc ça veut dire, il n'a pas décroché, envoie-lui un message. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir ce comportement-là aussi.
Et qu'en est-il des écouteurs à téléphone?
Oui, bon, ça, par exemple, ça permet de réduire la distance avec le corps et le téléphone. Bon, bien que si maintenant on respecte les temps, si on utilise de manière brève, et donc ça veut dire le téléphone. Donc ça veut dire, parce que le téléphone en réalité c'est pour des conversations brèves. Mais malheureusement on voit que
on a fait par exemple, une utilisation. Il fait une heure
de temps. Par exemple, quand tu mets une heure de temps, les écouteurs, de l'autre côté aussi, il y a un autre impact négatif donc, qui est là. Mais maintenant, si par exemple pour des appels de 2-3 minutes avec écouteurs, là, en tout cas, ça nous permet de réduire l'impact de l'onde électromagnétique ou bien le kit main libre.
Souéba, à partir d'aujourd'hui, tu sais comment utiliser ton téléphone, genre dans ta poche ou bien, je ne sais pas.
Oui, je remercie déjà les spécialistes qui ont dit des choses que je ne connais pas. Mais je voudrais aussi dire, en réalité, nous avons été mis devant le fait accompli avec les téléphones. Rien n'a été expérimenté dans notre environnement et nous avons été mis seulement en contact avec les téléphones.
C'est comme l'a déploré sans le docteur, oui.
Avoir fait en amont peut-être une certaine sensibilisation, une certaine éducation. Mais on pourra se rattraper, je pense, qu'il n'est pas trop tard. Donc il faudrait, oui. Il faudrait multiplier, voilà, il faudrait multiplier les sensibilisations, les explications pour que les gens prennent surtout la mesure et surtout avec les enfants. Parce que moi, je pense que les parents, peut-être en rentrant à la maison, ils ont été fatigués. Ils donnent le téléphone pour simplement s'en débarrasser des enfants, pour les occuper ou bien pour les faire taire. Et moi, je pense qu'il faudrait peut-être trouver une alternative pour occuper les enfants. Mais il y a aussi quelque chose qu'on peut-être néglige, c'est la sédentarité. Parce qu'avant, quand on était enfant, on peut sortir, jouer, tout. Mais maintenant, tout le monde est assis, tout le monde est tête baissée. Et ça aussi, ça a un impact parce que ça peut rendre obèse. La sédentarité, ce n'est pas bon pour la santé. Il faut quand même bouger.
Et même l'aspect social, les gens ne sont plus...
On va dire, nous sommes sur une table en train de manger, mais pratiquement tout le monde est
chacun
sur
son téléphone.
On ne se parle pas.
Oui,
très fréquent. Par exemple, l'utilisation du téléphone étant couché. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus paisible que lorsque je communique,
je sois couché.
Alors que... Et le téléphone, quand on regarde l'antenne relais avec, avec laquelle ton mobile communique, elle est polarisée verticalement. Donc, pour que deux antennes communiquent bien, il faut qu'ils soient polarisés de la même façon.
Voilà.
Donc, l'antenne relais est polarisée verticalement.
Et
toi, en tant qu'être humain, quand tu téléphones, ton téléphone est polarisé verticalement. Mais quand tu es couché, l'antenne est polarisée horizontalement.
Oui.
Et donc là, il y a une forte puissance aussi qui est utilisée pour pouvoir capter, c'est-à-dire peu de signal. C'est pour ça, parfois, quand tu communiques étant couché, tu vas voir que le signal se dégrade jusqu'à coupure de l'appel.
Voilà.
Donc, c'est important aussi. Donc, c'est-à-dire, si nous communiquons, c'est-à-dire, on doit être assis ou bien debout.
Docteur, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, dites-nous, quel conseil aux utilisateurs des smartphones?
Bon, en tout cas, la prudence doit être de mise. Et comme moi, je ne cesse de le rappeler, c'est comme n'importe quel produit. On ne peut pas consommer un produit sans pour autant, en tout cas, le connaître, les avantages, les inconvénients et la manière de l'utiliser. Donc, ce que peut-être je voudrais ajouter...
Rapidement, oui.
Il y a, en tout cas, la qualité de l'appareil, comme l'a dit le DAS, là. Il y a le DAS. Et deuxièmement, ce que moi j'ai constaté, les appareils qui viennent au Niger sont hyper sonores. Là aussi, il y a un impact négatif. Ouais, quand vous utilisez les appareils européens, en tout cas, les décibels là sont bien calibrés. Mais ici, on dirait, quand quelqu'un ouvre son téléphone, on a envie même de s'asseoir. On a l'impact direct sur soi. Ouais, donc il faudrait que, je crois qu'il y a une autorité de régulation des télécommunications. Cette autorité devrait aussi jouer son rôle devrait contrôler les appareils qui nous parviennent et de ne pas exposer la population aux mauvais appareils.
Merci à vous. Mademoiselle Souéba, qu'as-tu à dire aux jeunes?
Moi, si j'ai un plaidoyer à faire, c'est peut-être... Il faut penser à ouvrir des centres comme un truc psychologique parce qu'il y a des gens qui sont vraiment accros au téléphone. Mais est-ce que ça existe? Je sais que c'est non. Donc, c'est comme si c'est une maladie qui est complètement ignorée, disons. Alors que nous savons, il y a des gens qui sont complètement nomophobes, qui n'arrivent pas. C'est une véritable addiction. Donc, je pense qu'il faut peut-être penser à ça.
Voilà.
Merci.
Monsieur Ali, je terminerai avec vous. Que faire donc pour éviter tout problème lié à l'utilisation du téléphone mobile rapidement?
Bon, ça, tout de suite, moi, je vais remercier votre initiative. C'est vrai, ça a commencé avec l'association des informaticiens, mais aujourd'hui, avec les médias, c'est plus facile, la sensibilisation. Et donc, ça veut dire, moi, je vous exhorte à continuer dans ces centres, parce que le problème, c'est surtout un problème de comportement. Par exemple, quand on prend, le docteur a parlé de RTP, aujourd'hui RCEP, je pense qu'au niveau comportement, c'est plus question sociale, donc de sensibilisation. Par exemple, j'ai connaissance au niveau RCEP, par exemple, les antennes relais qui sont là. Il y a des dispositifs, des dispositions, pardon, je voudrais dire, qui ont été prises par rapport à ça. Par exemple, aujourd'hui, par rapport à l'installation des antennes, si, par exemple, un opérateur a un pylône, le pylône, c'est ça le support, s'il a un pylône dans une zone, RCEP préconise que tous les autres viennent installer leur antenne sur le pylône. Donc, ça dit qu'on a 4 opérateurs mobiles. Au lieu d'avoir 4 antennes dans la zone, on va avoir une antenne.
Voilà.
Ou bien un pylône, on va dire. Mais quand on prend chez nous les antennes qui sont avec nous, moi j'ai téléphone, moi j'ai un téléphone, c'est-à-dire j'ai une antenne, madame a téléphone, les enfants ont téléphone, ça fait combien? Si nous sommes 5 dans la famille, il y a 5 antennes.
5 antennes, c'est
trop. Alors
que
c'est RTP, à son niveau, a essayé de gérer avec la colocation et aussi le ministère de l'Environnement, généralement avant, chaque installation fait une étude environnementale. Donc je pense que pour eux, c'est-à-dire c'est géré. Mais maintenant, ça c'est question de comportement. Donc j'espère qu'avec ce débat-là, il y aura quelques changements de comportement et surtout si vous continuez dans ce sens.
Merci à vous donc, chers invités, chers auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalungu. Nous sommes au terme de ce forum. Les smartphones, ces petits outils de tous les jours, ne sont pas sans conséquence sur la santé de l'être humain. Une utilisation rationnelle s'impose pour éviter tout problème. Alors, merci chers invités d'être venus. Merci à nos auditeurs et auditrices. Nous avons débattu pendant 45 minutes sur l'utilisation du smartphone. Quels sont les impacts des radiations sur la santé? À la présentation, c'était Nafisa Adam Sirfo, à la technique Abdelkader Chombiano. À la prochaine pour une autre thématique. Au revoir.